13 mai. Ce matin, le docteur est venu chez moi. Il s'appelle Werner, mais il est russe. Qu'y a-t-il là d'étonnant? J'ai connu un Ivanov qui était allemand. Werner est un homme très connu pour différentes raisons. Il est sceptique et matérialiste comme presque tous les médecins. Avec cela, il est de ces poètes, ceci n'est pas une plaisanterie, qui le sont toujours en action, souvent en parole, et cependant il n'a pas écrit deux vers dans sa vie. Il connaît toutes les cordes vives du cœur humain comme il connaît toutes les veines d'un corps, mais il n'a jamais su profiter de ses connaissances, de même qu'un anatomiste distingué ne sait pas quelquefois traiter la fièvre. Ordinairement, Werner plaisante doucement ses malades, mais je l'ai vu une fois pleurer sur un soldat mourant. Il était pauvre, rêvait de millions, et n'aurait pas fait un pas inutile pour de l'argent. Il me disait un jour qu'il faisait plus souvent plaisir à un ennemi qu'à un ami, parce que cela s'appelait vendre cher sa bienfaisance, et que la haine d'un homme s'augmentait en proportion de la grandeur d'âme de son adversaire. Il a une langue mordante, mais sous l'aiguillon de ses épigrammes, pas un brave homme ne passe pour un sot insipide. Ses rivaux, les médecins des eaux, jaloux de lui, répandirent le bruit qu'il faisait des charges sur ses malades. Ceux-ci se fâchèrent et presque tous cessèrent de le voir. Ses amis, ceci est la vérité, hommes honnêtes en service au Caucase, s'efforcèrent en vain de rétablir son crédit ébranlé. Son extérieur est de ceux qui, au premier coup d'œil, frappent désagréablement, mais qui plaisent ensuite lorsque l'œil s'étudie à bien lire sur leurs traits irréguliers l'expression d'une âme éprouvée et pleine d'élévation. On a des exemples de femmes qui se sont amourachées de pareils hommes jusqu'à la folie, et elles n'auraient certainement pas changé l'objet de leur folie pour la beauté des plus frais et des plus roses endymions. Il faut rendre justice aux femmes, elles ont l'instinct de la beauté de l'âme, peut-être parce que les hommes comme Werner aime les femmes avec passion. Werner est petit de taille, maigre et délicat comme un enfant. Une de ses jambes est plus courte que l'autre, comme chez Byron. Comparé à son torse, sa tête paraît énorme. Ses cheveux sont coupés très courts et les inégalités de son crâne bosselé frapperaient un phrénologue en lui pressentant une étrange réunion des penchants les plus opposés. Ses petits yeux noirs, toujours en mouvement, s'efforce de scruter vos pensées. Dans ses vêtements, on remarque surtout du goût et de la propreté. Ses petites mains maigres et veinées se prélassent dans des gants vert clair. Son gilet et son habit et sa cravate sont toujours de couleur noire. Les jeunes gens l'appellent Méphistophélès. Il paraît vexé de ce surnom, mais au fond cela flatte son amour-propre. Nous nous sommes vite compris mutuellement et sommes devenus de bons amis, quoique je sois très difficile en amitié. Chez deux amis, l'un est toujours l'esclave de l'autre, quoique aucun des deux ne veuille le reconnaître. Je ne puis être l'esclave, mais dans ce cas, commander est un travail fatigant et, d'ailleurs, j'ai des domestiques et de l'argent. Voici comment nous sommes devenus amis. Je rencontrai Werner chez S au milieu d'un nombreux et bruyant cercle de jeunes gens. La conversation avait pris, sur la fin de la soirée, un tour philosopho-métaphysique. On parlait de convictions, chacun en avait de différentes. « Pour moi, disait le docteur, dans tout ce qui me touche, je ne suis convaincu que d'une chose. » « Et laquelle ? Demandai-je, jaloux de connaître les sentiments d'un homme qui s'était tu jusqu'alors. « C'est que, répondit-il, un beau matin, tôt ou tard, je mourrai. « Je suis plus riche que vous, lui dis-je, car en sus de cela, je suis encore convaincu d'une chose, c'est qu'un maudit soir, je suis venu au monde. » Tous trouvèrent que nous disions des absurdités, mais pas un d'entre eux ne dit rien de plus sensé. Dès ce moment, nous nous remarquâmes mutuellement au milieu de la foule. Nous nous réunissions souvent et causions ensemble fort sérieusement de choses abstraites, si bien que nous nous aperçûmes que nous nous trompions l'un l'autre. Alors, nous regardant profondément dans les yeux, comme le faisaient les augures romains, selon le mot de Cicéron, nous nous mîmes à rire, et, las de rire, nous nous séparâmes satisfaits de notre soirée. J'étais couché sur un divan, les yeux au plafond et les mains sur ma tête, lorsque Werner est entré dans ma chambre. Il s'est assis dans un fauteuil, a posé sa canne dans un coin, et en bâillant m'a dit que dehors il faisait chaud. Je lui ai répondu que les mouches m'agaçaient, et nous nous sommes tus tous les deux. Remarquez, cher docteur, que sans les sots, le monde serait bien ennuyeux. En effet, nous sommes là deux hommes intelligents. Nous savons que nous pourrions nous mettre à discuter sans fin, et à cause de cela, nous ne discutons pas. Nous connaissons presque toutes nos pensées les plus secrètes. Un seul mot est toute une histoire pour nous. Nous voyons le germe de chacun de nos sentiments à travers une triple enveloppe. Ce qui est triste nous paraît ridicule, et ce qui est ridicule nous paraît triste. Et pour dire la vérité, nous sommes en général assez indifférents pour tout, excepté pour nous-mêmes. Aussi ne peut-il y avoir échange de sentiments et de pensées entre nous. Nous savons l'un et l'autre tout ce que nous voulons savoir, et ne voulons pas en savoir davantage. Il nous reste un expédient, c'est de nous raconter les nouvelles. Dites-moi quelque chose de nouveau. Fatigué par cette longue tirade, je fermai les yeux et me mis à bâiller. Et il me répondit après avoir réfléchi. « Dans votre galimatia, il y a cependant une idée. Deux, dites-moi une, je vous dirai l'autre. Bien. Commencez, lui dis-je, en continuant à regarder le plafond et en souriant intérieurement. Vous avez envie d'avoir des renseignements sur le compte de quelqu'un venu aux eaux. Et moi, je présume que vous ne vous préoccupez de cela que parce qu'on s'est déjà renseigné sur vous. Docteur, il nous est décidément impossible de converser ensemble, car nous lisons dans l'âme l'un de l'autre. Maintenant, quelle est la seconde idée ? La seconde idée ? La voici. J'ai envie de vous faire raconter quelque chose. Premièrement, parce que écouter est moins fatigant. Secondement, parce qu'ainsi on ne risque pas d'être indiscret. Troisièmement, parce que l'on peut apprendre ainsi les secrets d'autrui. Quatrièmement, parce que les hommes d'esprit comme vous aiment mieux les auditeurs que les conteurs. Maintenant, à votre tour, que vous a dit de moi la mère de la princesse Ligovska ? Êtes-vous certain que ce soit la mère qui m'ait parlé de vous et non pas la fille ? Tout à fait certain. Pourquoi ? Parce que la jeune fille a demandé des renseignements sur Grudzinski. Vous avez véritablement le don de divination. La jeune fille a dit qu'elle était persuadée que ce jeune homme, en costume de soldat, avait été mis dans cette position à la suite d'un duel. Je pense que vous la laisserez dans cette agréable erreur. Cela va sans dire. Il y a une intrigue, me suis-je écrié avec joie. Occupons-nous de la fin de cette comédie. Ma destinée est décidément de m'occuper de cela pour me désennuyer. Et je pressens, dit le docteur, que le pauvre Grudzinski sera votre victime. Allez, allez donc, docteur. La princesse mère m'a dit que votre visage lui était connu. Je lui ai fait observer que certainement elle devait vous avoir rencontré dans le monde, à Saint-Pétersbourg, et je lui ai dit votre nom. Il lui était connu. Il paraît que votre histoire a fait beaucoup de bruit. Elle s'est mise à raconter vos aventures, ajoutant probablement, selon les caquets mondains, ses propres remarques. Sa fille écoutait avec beaucoup de curiosité. Et dans son imagination, vous êtes devenu un héros de roman. Je n'ai contredit en rien la princesse, quoique je susse bien qu'elle disait des absurdités. Mon digne ami, lui ai-je dit en lui prenant la main. Le docteur s'est recueilli un instant et a continué. Si vous voulez, je vous présenterai. De grâce, permettez. Lui ai-je dit en frappant dans mes mains. « Est-ce que l'on présente les héros ? Ils se font connaître d'une autre manière. par exemple en sauvant d'une mort certaine leur bien-aimé en... Et vous voulez effectivement vous mettre à faire votre cour à la princesse ? Au contraire, docteur. Pourtant, je triompherai. Vous ne me comprenez pas. Cela me désole. Du reste, ai-je continué après un moment de silence, je ne raconte jamais mes secrets. J'aime bien mieux qu'on les devine. Je puis ainsi, à l'occasion, désavouer de semblables projets. Cependant, vous devez me décrire la mère et la fille. Que sont ces gens-là ? D'abord, la mère est une femme de 45 ans environ, m'a répondu Werner. Son estomac est excellent, mais son sang est gâté. Elle a sur les joues des taches rouges, et comme elle a passé la dernière moitié de sa vie à Moscou, l'inaction lui a valu de l'embonpoint. Elle aime les anecdotes scandaleuses et raconte elle-même des choses un peu lestes lorsque sa fille n'est pas là. Elle m'a déclaré, par exemple, que sa fille était innocente comme une colombe. Cela me regardait-il ? J'avais envie de lui répondre « Soyez tranquille, madame, je n'en dirai rien. » La mère se soigne pour un rhumatisme, et la fille, Dieu sait pourquoi. Je lui ai ordonné de boire 2 verres d'eau alcaline par jour et de se baigner 2 fois par semaine dans un bain minéral étendu d'eau. La princesse mère ne me paraît pas être habituée à commander. Elle vante l'esprit respectueux et le savoir de sa fille qui lit Byron en anglais et sait l'algèbre. À Moscou, il est certain que les jeunes filles acquièrent de l'érudition, et elles font bien. Les maris sont en général si peu aimables que coqueter avec eux doit être insupportable pour une femme d'esprit. La princesse mère aime beaucoup les jeunes gens. La jeune princesse les regarde avec un certain mépris, coutume moscovite. Elle ne voit à Moscou que des galants de 40 ans. Êtes-vous allé à Moscou, docteur ? Oui, j'ai eu là quelques clientèles. Ah, et puis, continuai-je ? Mais je crois avoir tout dit. Ah, cependant, voici encore ceci. La jeune princesse me paraît aimer à parler sentiments, passions, etc. Elle était en hiver à Pétersbourg et ne se plaisait pas dans la société élevée. On devait l'avoir accueillie froidement. Vous n'avez vu personne chez elle aujourd'hui ? Au contraire, il y avait un aide-de-camp, un tirailleur de la garde et une dame quelconque nouvellement arrivée, parente de la princesse par son mari, très jolie, mais il paraît très malade. Ne l'avez-vous pas rencontrée au puits ? Elle est de taille moyenne, blonde, avec des traits réguliers, un visage de poitrinaire et une petite tache noire sur la joue. Son visage m'a surpris par son expression. « Une tache noire, » ai-je murmuré entre mes dents. « Serait-ce possible ?» Le docteur m'a regardé et m'a dit, avec un air superbe en posant sa main sur mon cœur, « Vous la connaissez ?» Effectivement, mon cœur battait plus fort qu'à l'ordinaire. « À votre tour de me vaincre, » lui ai-je dit, « je compte sur vous. Ne me trahissez pas, je ne l'ai pas encore vue, mais je suis sûr que je reconnais à votre portrait une femme que j'ai aimée autrefois. Ne lui dites pas un mot de moi, et si elle vous questionne, dites-lui du mal de votre serviteur. » « Je le veux bien, » a ajouté Werner en haussant les épaules. Après le départ du docteur, une peine affreuse m'a serré le cœur. Est-ce que le hasard nous réunirait de nouveau au Caucase ? Ou bien est-elle venue ici, sachant qu'elle m'y rencontrerait ? Et comment nous revoir ? Et puis, est-ce bien elle ? Mes pressentiments ne m'ont jamais trompé. Il n'est pas un homme sur lequel le passé ait plus d'empire que sur moi. Chaque souvenir du plus court chagrin ou de la plus courte joie frappe mon âme jusqu'à la souffrance et en tire toute espèce de son. Je suis organisé d'une manière stupide. Je n'oublie rien, rien. Après le dîner, à 6 heures, je suis allé sur le boulevard. Il y avait foule. Les deux princesses étaient assises sur un banc, entourées de jeunes gens qui faisaient tous leurs efforts pour paraître aimables. J'ai trouvé place à quelque distance sur un autre banc. J'ai arrêté deux officiers de ma connaissance et leur ai raconté quelque histoire. Évidemment, c'était drôle, car ils se sont mis à rire comme des fous. La curiosité a attiré vers moi quelques-uns de ceux qui entouraient la jeune princesse. Peu à peu, ils l'ont tous abandonnée et se sont réunis à mon groupe. Je ne tarissais pas. Mes anecdotes étaient spirituelles jusqu'à la sottise, mes railleries sur les passants originales et méchantes jusqu'à la violence. J'ai continué d'égayer ce public jusqu'au soleil couchant. Plusieurs fois, la jeune princesse, au bras de sa mère, accompagnée de quelques vieillards boiteux, a passé près de moi. Son regard, en tombant sur moi, exprimait du dépit, quoiqu'elle s'efforçât de prendre un air indifférent. « Que racontait-il » a-t-elle demandé à l'un des jeunes gens qui était retourné vers elle par politesse. « C'était sûrement une histoire très intéressante, ses exploits à la guerre ?» Elle a dit tout cela assez haut et avec l'intention de me piquer. « Ah » ai-je pensé, « vous vous fâchez tout de bon, chère princesse. Permettez, vous en verrez bien d'autres. » Grouchnitsky la suivait comme une bête féroce suit sa proie et ne la quittait pas des yeux. Je parierais que demain il demandera à quelqu'un de le présenter à la princesse. Elle en sera fort heureuse, car elle s'ennuie.